Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Historiquement vôtre. Vous connaissez maintenant le concept. Chaque après-midi, on réunit trois personnages très différents qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui avaient un point commun, le tout en présence d'un quatrième personnage très différent lui aussi. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est vrai, j'assume ma différence. Peut-être un peu moins l'intitulé de notre émission du jour, je vous laisse le dire. Moi ça me gêne, on dirait une contrepétrie de Jean Roucas.
Mais allons Mathieu, décoincez-vous un peu. Aujourd'hui, on réunit des folles de fouilles.
C'est fou comme dans votre bouche tout passe.
Oui, je sais.
Mais sans bafouiller.
Oh, je ne fais que mon métier, Mathieu. Bref, elles en avaient un sacré de métier, archéologue. À commencer par la plus célèbre d'entre eux, une femme, oui. La Française Christiane Desroches-Noblecourt, qui a passé sa vie en Égypte, menant près de 700 fouilles pour la sauvegarde de ses trésors. Puis, avant elle, elle aussi a gravé son nom dans la pierre, mais aussi sur le papier. L'archéologue et écrivaine Jane Dieu Lafoy. Je pense qu'on dit comme ça. Hein.
Je ne sais pas, Stéphane. Oui. Jane Dieu Lafoy.
Elle est... Jeanne Dieu Lafoy. l'archéologue et écrivaine Jeanne Dieu Lafoy qui a narré ses...
Là, nos auditeurs ont compris que c'est une émission qu'on a le mieux bossée, Stéphane.
C'est pas ça, vous savez. Non, voyez-vous, il y a une différence entre l'écrit et l'oral. Parfois, vous voyez, vous avez le nom d'un personnage qui est mort depuis longtemps, qui n'a pas eu le temps de se présenter. Oui. Et donc, non mais c'est vrai.
Mais c'est vrai, elle nous a jamais
elle
dit.
Elle nous a jamais dit.
Hello, my name is Jane. Ou Jane, ou Jeanne, on ne sait pas.
Dieu Lafoy.
Jeanne Lafoy.
Non, elle s'appelle Jeanne Dieu Lafoy. Voilà. Alors... qui a narré ses exploits et découvert certains des chefs-d'œuvre perses aujourd'hui exposé au musée du Louvre. Et quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une personnalité qui fouille aussi, mais dans la vie des stars.
Oui, elle est l'autre Mimi du showbiz, le grand public la connaît moins que Mimi Mathy, mais Mimi Marchand est pourtant encore plus influente puisqu'elle est la reine des paparazzi. Elle a plusieurs agences, un réseau tentaculaire qui ferait pâlir Stéphane Bern, qui est pourtant, je le rappelle, cul et chemise avec Nana Mouskouri, la reine d'Angleterre, et Jude Law, enfin, un type qu'il avait rencontré dans l'Eurostar et qui ressemblait à Jude Law, mais en plus petit.
Et oui, vous avez raison. Et avec nous, comme chaque jour, bon, on ne risque pas de les confondre, ce sont nos chroniqueurs. Celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Peut-être vous en souvenez-vous, j'avais déjà évoqué ici la passion d'Agatha Christie pour l'archéologie et les archéologues, puisqu'elle a épousé un jeune archéologue bien plus jeune qu'elle. Mais aujourd'hui, je me suis plongée pour vous dans « Faux trésors et impostures », un livre consacré à toutes les mystifications en tout genre liées à de pseudo-trouvailles archéologiques. Et vous allez voir, c'est très amusant.
Et puis... puisque je pense forcément à toutes ces têtes de gens célèbres qu'on a retrouvées et qu'on a dû analyser. Avec David Cassel-Lopez, on remonte donc aux origines du shampoing.
Tout à fait. Quand on a des cheveux, oui, quand on a des cheveux. Parce que pas certains...
Quand t'es une fille, t'as pas de shampoing.
Mais en fait, c'est très rare que les gens n'en aient pas du tout. C'est-à-dire qu'au pire, même Gérard Jugnot a une couronne derrière la tête.
Même Gérard Jugnot.
Qui doit bien être lavé avec du shampoing également.
Olivier Poulce est avec nous aussi, Stéphane.
Oui, alors là, je suis un peu dans le potage. Je ne sais pas de quoi il va nous parler. Il remonte aux origines d'un plat.
Le potage Saint-Germain, potage de saison qui contient un de mes légumes préférés, si ce n'est mon légume préféré, des petits pois, le caviar vert.
C'est la saison des petits pois, là.
Ah oui, la saison des petits pois n'est pas très longue. Mai, juin, voilà.
Le caviar vert, c'est vraiment pas du tout du caviar, en fait.
Non, c'est vraiment là.
C'est vraiment complètement abusif.
Oui, c'est clair.
Non, je suis
j'ai
pas
hésité
d'accord.
À vous servir du caviar.
Ou des bouts du caviar vert.
Eh bien, je vais vous dire, je suis pas certain de pas préférer le caviar vert.
Mais quel faux cul.
Il faudrait que je puisse regoûter les deux côte à côte.
Oui, c'est sûr. Nous jouerons, évidemment, dans cette émission. Nous adorons jouer avec l'histoire. Burn to be alive, le quiz qui oppose Stéphane à Clémentine chaque jour. Ça sera dans quelques minutes, mais d'abord, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle connaît l'Égypte comme sa poche. Elle est surnommée la grande prêtresse de Ramsès II.
Eh oui, hein, c'est pas Dalida.
En effet, Clémentine, elle est française, mais elle a passé une grande partie de sa vie en Égypte pour diriger des campagnes de fouilles et sauvegarder ses trésors. Stéphane Bern met de l'or dans ses papyrus et nous raconte la première grande égyptologue, Christiane Desroches-Noblecourt.
Nous sommes le 13 janvier 1955 sur l'aérodrome d'Héliopolis en Égypte. Il est 3h du matin quand un avion se pose sur le tarmac. À bord se trouve le directeur général de l'UNESCO. Luther Evans est en visite officielle au Caire et comme à chacun de ses déplacements, son agenda est très chargé. C'est donc d'un pas rapide que cet Américain d'origine texane se dirige dans la nuit égyptienne vers le petit hall d'accueil de l'aéroport. Lui, qui dépasse toute sa délégation d'au moins une tête, a la surprise d'être accueilli à l'intérieur par un petit bout de femme d'à peine 1m58, un peu replète, les cheveux courts. C'était pas prévu. Cet archéologue spécialiste de l'égyptologie s'est invité à l'arrivée. Christiane Desroches-Noblecourt a une idée derrière la tête. Et quand cette impétueuse Française veut quelque chose, rien ne l'arrête. La tête haute, le regard déterminé, cette chercheuse de 41 ans a fomenté un plan insensé. Montrer les temples d'Abou Simbel au directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Pour qu'il voie de ses yeux l'incroyable spectacle de ces édifices construits au XIIIe siècle avant notre ère par Ramsès II lui-même. Pourquoi ? Parce que ces inestimables trésors d'art et vestiges historiques risquent d'être anéantis. Un gigantesque projet de barrage, le Haut Barrage d'Assouan, menace de les engloutir à jamais sous les eaux. Eux et d'autres merveilles de Nubie. Problème, il faut à l'époque 5 jours pour rejoindre Abou Simbel depuis le Caire. 5 jours de train, de piste et de bateau. Autant dire une expédition impossible pour une visite officielle de quelques jours. Mais qu'importe. Pour Christiane Desroches-Noblecourt, c'est aujourd'hui ou jamais. Alors, il faut tenter l'impossible. L'archéologue a remué ciel et terre pour trouver une solution. Et elle l'a fait. Elle est parvenue à faire spécialement affréter un avion militaire égyptien. Et malgré les tensions entre les deux pays, elle a réussi à convaincre l'ambassadeur du Soudan de les laisser atterrir à Wadi Halfa, au plus près du site, pour leur permettre une excursion aller-retour dans la journée. Il ne lui reste plus qu'à convaincre le directeur de l'UNESCO. Stupéfait, mais néanmoins intrigué par cette proposition impromptue, Luther Evans se laisse embarquer dans l'aventure. Et voilà donc une partie de la délégation repartie pour presque 3 heures d'avion, puis 4 heures de piste en voiture, puis enfin la traversée du Nil en bateau jusqu'au site d'Abou Simbel, situé en bord de fleuve. À bord de l'embarcation, c'est avec stupeur que Luther Evans découvre les colosses du Grand Temple, dressés dans la roche, taillés dans une pierre couleur de sable, les eaux du fleuve sacré restituant à l'envers leur reflet monumental. Spectacle à peine croyable. Christiane Desroches-Noblecourt a réussi son pari. Elle, qui voue une admiration sans bornes à ces trésors de l'Égypte ancienne, parvient à émouvoir le directeur de l'UNESCO. À son retour au Caire, il admet lors d'un discours, je le cite, qu'il serait nécessaire de prendre soin des temples de Nubie. Avec le soutien déjà acquis du président égyptien Abdel Nasser, puis désormais de l'UNESCO, l'égyptologue française s'est engagée dans ce qui sera la plus grande bataille de sa vie, la sauvegarde des trésors de Nubie. Christiane Desroches-Noblecourt en sortira victorieuse en initiant la plus incroyable campagne archéologique jamais engagée, une campagne qui durera 20 ans. Le démontage pierre par pierre de 30 temples nubiens menacés d'être engloutis par le barrage, puis leur reconstruction à l'abri de la montée des eaux. Un chantier pharaonique, c'est le cas de le dire. Mais qui est cette Française qui a réussi à déplacer des montagnes au sens propre comme au sens figuré au nom de la sauvegarde du patrimoine universel? Incroyable destin que celui de cette égyptologue française parvenue au sommet de sa discipline sans jamais avoir décroché le bac. Et malgré un autre handicap de taille pour l'époque, celui d'être une femme. Comme souvent, avec les belles histoires, tout commence par l'émerveillement d'un enfant. Né en 1913 dans une famille raffinée et cultivée, Christiane Desroches découvre très jeune les représentations égyptiennes. Comme nombre d'enfants, elle éprouve tout de suite une grande fascination pour cette civilisation à la fois effrayante et énigmatique. Mais au lieu de faiblir avec l'âge, comme souvent chez elle, cette fascination ne fait que grandir. Christiane lit tout ce qu'elle peut sur l'Égypte antique. Au début des années 20, elle est totalement subjuguée par les comptes rendus de la découverte des trésors du tombeau de Toutankhamon. Bien qu'elle ne décroche pas le bac, elle parvient à poursuivre des études secondaires. Tout ce que Paris compte de cours d'archéologie égyptienne, Christiane Desroches s'y inscrit. À la Sorbonne, à l'École du Louvre, au Collège de France, à l'Institut catholique. Brillante, elle obtient sans mal sa licence d'études égyptiennes de l'École pratique des hautes études, puis décroche à seulement 23 ans un poste au département d'égyptologie du Louvre, devenant ainsi la toute première femme à obtenir un poste analogue au sein de ce département, il faut le dire, très masculin. Une prouesse qui sera très loin d'être la seule de sa carrière d'archéologue. L'année suivante, lors de son tout premier voyage en Égypte, Christiane Desroches devient la première femme nommée au poste de pensionnaire de l'Institut français d'archéologie du Caire. Puis, dans la foulée, la première à diriger une fouille. Nous sommes en 1938 et bientôt, une autre occasion se présente de prouver que son amour pour l'art ne connaît aucun obstacle, pas même celui de la guerre. En 1939, la guerre éclate en Europe. Tourmentée par les nouvelles, Christiane Desroches rentre en France en mai 1940. Immédiatement, elle propose ses services au Louvre. Jacques Jaujard, le directeur général des musées nationaux, a commencé un extraordinaire plan d'évacuation de tous les chefs-d'œuvre que compte la capitale. Et elle va l'aider dans cette périlleuse entreprise. Après l'appel du 18 juin, Christiane est de ceux qui n'acceptent pas l'armistice signé par le gouvernement de Vichy. À 27 ans, elle entre en résistance, multipliant les missions pour l'armée des ombres. En décembre 1940, à Moulins, elle est même arrêtée par la Gestapo, qui heureusement ne trouvera pas le minuscule document secret qu'elle cache dans son gant. Quand la guerre prend fin, sa passion pour l'Égypte reprend ses droits. Christiane Desroches, devenue Christiane Desroches Noblecourt, depuis qu'elle s'est mariée en plein cœur du conflit avec le conseiller technique à la sécurité des musées de France, reprend le cours fulgurant de sa carrière. Elle entreprend alors des centaines d'allers-retours entre Paris, son poste de professeur au Louvre, et l'Égypte. Là-bas, elle s'occupera au total de près de 700 chantiers de fouilles. Outre son extraordinaire combat pour la sauvegarde des trésors de Nubie du haut barrage d'Assouan, Christiane Desroches Noblecourt a marqué les mémoires à travers deux expositions restées dans les annales. L'exposition Toutankhamon, qu'elle organise en 1967 à Paris, et l'exposition Ramsès II, à laquelle elle participe activement en 1976. Au Louvre, où elle enseigne, elle devient une légende vivante. Au début des années 1980, désormais conservatrice en chef du département des antiquités égyptiennes, les cours magistraux qu'elle dispense encore engendrent des embouteillages à l'entrée de l'amphithéâtre. Il faut dire que grâce à Christiane Desroches Noblecourt, à ses ouvrages passionnants, à ses combats exaltés, l'égyptologie n'est plus en France la discipline austère qu'elle fut longtemps. Lorsqu'elle meurt en 2011, à l'âge de 97 ans, celle qui a reçu en 1975 la toute première médaille d'or du CNRS destinée à une femme, puis le titre de Grand Croix de la Légion d'honneur en 2008, est devenue l'une des figures les plus emblématiques de l'égyptologie française, quasi au même titre que Jean-François Champollion, qui lui avait déchiffré les hiéroglyphes.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Christiane Desroches Noblecourt, nous avons le plaisir, Stéphane, d'accueillir celle qui lui consacre justement une biographie. Bonjour Claudine Le Tourneur d'Izon.
Bonjour.
Bonjour Claudine Le Tourneur d'Izon. Vous êtes journaliste spécialisée en égyptologie. Vous venez de publier Christiane Desroches Noblecourt, la reine de l'égyptologie aux éditions Talendier. Vous avez été l'élève, je crois, de Christiane Desroches Noblecourt pendant plusieurs années sur les bancs de l'école du Louvre. Quels souvenirs vous a-t-elle laissé? Et vous décrivez une femme au caractère plutôt féroce.
Alors j'ai eu effectivement la chance de la voir pendant 4 ans à l'école du Louvre. C'était ses dernières années, donc elle avait déjà plus de 70 ans, parce qu'elle refusait vraiment de partir à la retraite, et c'est quelque chose que le mot retraite qui lui faisait horreur. Et c'était une femme qui était impressionnante par son regard, parce que quand elle vous regardait la première fois, elle vous déshabillait, on avait l'impression qu'elle touchait votre âme avec ses yeux et qu'elle parvenait à comprendre tout de suite qui vous étiez et qui elle avait en face d'elle. Et ça, c'était vraiment très déstabilisant. Il faut dire qu'elle-même était un bourreau de travail et qu'elle ne supportait absolument pas d'avoir en face d'elle des gens qui soient des dilettantes.
Est-ce qu'en tant que femme, dans un milieu, on l'a dit, exclusivement masculin à l'époque, Christiane Desroches Noblecourt a subi certaines formes de sexisme?
Oh ben oui. Elle en est devenue féroce au fil des années, parce que si elle n'avait pas été telle qu'elle était avec ce caractère-là, elle n'aurait pas survécu dans le monde d'hommes qui lui ont mis des bâtons dans les roues pendant pratiquement toute sa carrière. Et dès le départ, elle a compris qu'elle vivait dans un monde très machiste, bien qu'elle soit issue d'une famille, au contraire, extrêmement ouverte. Elle avait des parents très cultivés, très cosmopolites. Pour l'époque, c'était quand même très rare. Et donc, elle parlait plusieurs langues, elle a eu une formation vraiment très complète. Et quand elle a voulu se lancer dans l'égyptologie à l'époque, c'était un univers extrêmement intimiste en fait. On n'en parlait même pas. On faisait pas, on rêvait pas de faire de faire son métier. De,
il n'y avait pas de livre grand public dans les histoires comme ça de
non,
mode.
Non,
de...
non,
il y avait Christian Jacques encore.
Voilà, non, voilà.
Il n'y avait absolument pas tout ça. Donc elle s'est heurtée déjà au fait que c'était un domaine d'abord exclusivement réservé à un noyau d'hommes. Mais la chance qu'elle a eue quand elle a franchi le premier pas et qu'elle a pu rentrer à l'école du Louvre, c'est qu'elle a eu des professeurs qui étaient des grands humanistes, des gens extrêmement érudits et qui l'ont prise sous leur aile et qui l'ont beaucoup aidée, dont Drioton, l'abbé Drioton, qui a été vraiment son mentor et qui l'a vraiment poussée et qui l'a toujours défendue. Donc elle a eu, pendant ses études, une bulle de protection masculine, parce que vraiment entourée de gens brillantissimes et qui ont compris sa passion, qui ont compris sa valeur aussi, et qui ont vraiment tout fait pour qu'elle réussisse. Après, quand elle se heurte au monde du travail, je dirais, en quelque sorte, là commence vraiment le désenchantement.
Vous écrivez qu'elle s'est même identifiée à Hatshepsut, la seule femme à être montée sur le trône d'Égypte avec tous les attributs du pharaon, dont on a, d'ailleurs, déjà parlé d'elle ici.
Il a consacré un portrait.
Ah oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce qui est amusant quand on lit la biographie qu'elle a consacrée à Hatshepsut. On a l'impression par moment de lire la biographie de Desroches-Noblecourt parce que elle s'identifie parce que finalement cette reine qui a été vraiment la première reine d'Égypte avec tous les attributs de pharaon, donc on devinait à peine que c'était une femme, a saisi une opportunité. Elle était simplement l'épouse de Thoutmôsis II. Elle n'avait aucune filiation pour devenir reine. Et elle a profité d'un petit espace qui lui a été donné dans l'histoire, c'est-à-dire la mort de son époux et le successeur Thoutmôsis III, qui est encore un enfant. Et donc là, elle s'est dit, ça y est, je peux y aller, là. Mmh. Et donc, elle a eu à combattre et à vaincre aussi tout un monde de réglementation, toute une société déjà fortement construite autour des hommes. Et effectivement, Christiane Desroches-Noblecourt aimait beaucoup à parler de cette reine qui lui rappelait quelques souvenirs de ses batailles à elle-même.
Oui. Cette année 2022 marque le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, souvent considéré comme le père fondateur de l'égyptologie. Quelles ont été les grandes étapes de la passion française pour l'Égypte ancienne au fil de l'histoire ?
Alors, tout a commencé véritablement avec l'expédition Bonaparte, en 1798, où là, ce génial petit général a l'idée pour aller combattre et pour essayer de chasser les Anglais d'un territoire où les Français ont envie de s'installer, d'emmener dans ses bagages 160 savants, scientifiques, qui appartiennent à l'Institut de France et qui vont faire un relevé de l'Égypte d'une façon absolument exhaustive, je dirais presque, puisque c'est la description d'Égypte qui est un livre emblématique, sauf qu'ils ne possèdent pas la langue. Et ça leur fait un grand défaut quand même. Mais bon, c'est là, quand la description d'Égypte, le livre sort en 1809, il y a effectivement un engouement pour l'Égypte en France, et dont Champollion est issu, finalement, avec le déchiffrement des hiéroglyphes, qui est une prouesse inouïe. Enfin, c'est un pur génie, Champollion, d'être parvenu à ce déchiffrement. Donc voilà, il ancre la France encore plus dans l'histoire de l'Égypte.
Elle a une telle importance que, d'ailleurs, dans un chapitre intitulé « La folie pharaon », vous rappelez qu'en 1967, justement, Christiane Desroches-Noblecourt organise au Petit Palais l'exposition « Toutankhamon », qui bat des records de fréquentation. Elle n'a vraisemblablement pas été touchée par la malédiction, dit-on.
Oui, ça touche que les Anglais. Ils ciblent Toutankhamon, les Anglais.
Oui, absolument. Donc c'est vrai qu'elle a toujours beaucoup ri quand on lui parlait, quand on l'a interrogée sur la malédiction des pharaons. Pour elle, un des plus grands mystères, de toute façon, ça restait pourquoi on a découvert cette tombe et pourquoi c'est la seule qu'on ait découverte un violet, quoi. Ça, c'est pour elle, c'était une grande interrogation. Mais par contre, il y a une anecdote qu'elle nous racontait toujours en cours et qui était vraiment très, très drôle aussi pour elle. Et un autre, il y avait un autre très grand mystère, c'est-à-dire que Lord Carnarvon, qui était le mécène de Carter, malheureusement, juste après l'ouverture de la tombe, va mourir au Caire. Mais lui était déjà très, très malade bien avant. Donc, au moment où, dans l'hôpital du Caire, il rend son dernier souffle, toutes les lumières de la ville s'éteignent. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'en Angleterre, dans son manoir où était resté son chien, au moment même de la mort de son maître, le chien se met à hurler à la mort. Et pour elle, ça, c'était des grands mystères liés à la tombe de Toutankhamon. Pour elle, il n'y en avait pas d'autres.
Vous expliquez qu'au-delà des enjeux culturels de l'exposition Toutankhamon, il existait aussi des enjeux politiques très forts en 1967, car depuis la crise du canal de Suez en 1956, les relations entre la France et l'Égypte étaient rompues. Est-ce que Christiane Desroches-Noblecourt, elle s'est muée aussi en diplomate quelque part ?
En fait, cette exposition était avant tout politique. Mmh. C'est-à-dire que la France cherchait à rétablir des relations avec les pays arabes. Et donc, ces relations qui étaient rompues avec l'Égypte étaient vraiment assez grave pour la France. Donc, Christiane Desroches-Noblecourt, avec Malraux à ses côtés, essaie de convaincre les Égyptiens de faire sortir le trésor de Toutankhamon, qui n'est jamais sorti d'Égypte. Ça, c'est une grande première aussi. Donc, elle négocie, elle fait croire finalement aux Égyptiens que c'est eux qui demandent d'être exposés à Paris, d'exposer le trésor. Et elle prend en main toute cette exposition qui a été extrêmement compliquée pour elle. Mais au bout du compte, c'est vraiment pour faire en sorte qu'au bout du compte, Nasser et De Gaulle se rencontrent et que les relations diplomatiques soient rétablies. Sauf que les deux présidents ne se rencontreront jamais puisqu'ils meurent tous les deux en 1970 à deux mois d'écart.
L'un des grands faits d'armes de Christiane Desroches-Noblecourt, c'est les chantiers de Nubie. Est-ce qu'il y a encore des temples qui sont menacés aujourd'hui en Nubie ou ailleurs en Égypte?
Pour être très sincère, le plus grand danger aujourd'hui qui menace les monuments, que ce soit les temples, les tombes ou tous les sites, c'est le tourisme. C'est le tourisme de masse. Et pour rien arranger, le gouvernement égyptien transforme beaucoup de sites en Disneyland pour attirer encore plus de monde. Quand vous voyez la Vallée des Rois, c'est catastrophique. Moi, j'ai eu la chance de voir la Vallée des Rois. À l'époque, on arrivait avec un petit chemin de terre sur un âne. Mais aujourd'hui, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Entre les toilettes qu'on ne voit qu'en premier, entre les parkings monstrueux pour les bus, on a ouvert toutes les ouvertures des tombes pour permettre aux groupes de rentrer un maximum dans les tombes. Vous imaginez pour les représentations, pour les peintures si fragiles. Voilà, c'est tout à l'avenant. Donc, et aujourd'hui, il n'y a plus une parole forte comme celle de Christiane Desroches-Noblecourt. Je dois rappeler qu'en 1999, elle s'est opposée à la construction d'une autoroute au pied des pyramides. Elle a réussi à menacer le gouvernement égyptien de le priver des subventions de l'UNESCO. Et ça a marché, parce que sa parole était très forte. Aujourd'hui, qui est-ce qui a une parole suffisamment forte pour empêcher le général Sissi de détruire toute la cité des morts du XIIe siècle ?
Stéphane, il faut vous en occuper. Il faut vous en parler.
Voilà. J'ai déjà assez de problèmes en France. En tout cas, merci beaucoup Claudine Le Tourneur-Disson. Je rappelle votre livre Christiane Desroches-Noblecourt, La reine de l'égyptologie, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires pour lesquelles elle passe des heures et des heures à fouiller dans nos placards. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et parfois, Clémentine, vous tombez sur un livre. Aujourd'hui, vous nous racontez faux trésors et impostures.
Oui, Stéphane, parce qu'il n'y a pas que des archéologues sérieux qui veulent édifier l'humanité par leurs trouvailles. Il y a aussi un peu des imposteurs et des petits rigolos. Et alors là, il y en a toute une nomenclature dans ce livre de Marie-Ève Stenuit, publié aux éditions du Trésor. Faux trésors et impostures. Et alors là, il y en a pour tous les goûts. Faux crânes de cristal, reliques de Yéti trafiquées, ville imaginaire, vous savez, cette fameuse cité perdue du Kalahari, ensevelie sous les sables et qui contiendrait des trésors, squelette d'un prétendu ancêtre de l'être humain, fausses épaves, faux trésors de pirates, ça c'est très répandu, j'en passe et des meilleurs. Alors vous trouverez dans ce livre les plus belles, les plus mémorables affaires de falsification, des histoires qui ont divisé les espères et alimenté la presse et suscité de fameux scandales. Et Marie-Ève Stenut est bien placée pour en parler parce qu'elle est historienne de l'art et archéologue. Elle pratique l'archéologie sous-marine et elle a participé à des fouilles terrestres au Proche-Orient. Et ce qui est amusant avec ces faussaires, c'est que vous avez évidemment ceux qui sont mus par l'appât du gain. C'est l'argent, comment je vais vendre d'une fausse statue et devenir riche. Mais il y a aussi qui sont mus par le rêve, c'est-à-dire qu'ils y croient tellement à leur cité perdue, à leur squelette de yéti, qu'ils veulent y croire. Il y a un peu d'autosuggestion derrière tout ça. Mais il y a ceux qui recherchent simplement la notoriété. Je suis jaloux de mon copain qui a trouvé un crâne de créature préhistorique, il faut que je trouve la mienne. Alors, il y a sans doute l'histoire qui est peut-être la plus connue, c'est celle des fameux crânes de cristal. Vous avez entendu parler de ces crânes de cristal?
C'est le dernier Indiana Jones. Jones, c'est le crâne de cristal.
Exactement, exactement. La légende raconte qu'il y avait 12 crânes de cristal et que les Aztèques les utilisaient pour pratiquer la magie noire. À l'arrivée des conquérants espagnols au XVIe siècle, les prêtres dispersent à travers l'Empire les crânes de cristal pour que leur pouvoir surnaturel ne tombe pas entre des mains ennemies, naturellement, bien sûr, c'est logique.
Et comment c'est possible alors que le cristal a été inventé bien plus tard?
Mais parce que vous êtes un homme de peu de foi, c'est que, voilà, vous voyez, ce sont des crânes qui ont été forgés par les dieux, donc évidemment, ça
les
précède
dieux,
la planète.
Les dieux, ils connaissaient déjà le cristal,
exactement.
Stéphane.
Mais
non,
les dieux sont omnipotents. Non, mais vous êtes un peu trop rationnel, mon cher ami. Alors l'idée, si vous voulez, de la légende, c'est que le jour où ces 12 crânes seront réunis, eh bien, le royaume de Moctezuma retrouvera toute sa puissance. Il y a une version magie blanche de ces 12 crânes, toujours 12 crânes. Là, c'est lié à la culture maya. Donc, 12 crânes de nature féminine, un crâne masculin. Donc, le jour venu, quand on retrouvera les 12 crânes, on mettra en cercle ceux des femmes. Au centre, le crâne masculin. Et là, ça va pas ressusciter l'empire de Moctezuma, mais ça va permettre de réunir les crânes, d'éviter la fin du monde. Fameux cataclysme qui aurait dû survenir le 21 décembre 2012, d'après des calculs fort complexes.
De 10 ans.
Et vous vous souvenez pas de cette histoire?
Il y a même eu un film.
L'hypothèse farfelue des calendriers mayas. Ça devait être la fin du monde, ça n'a pas fonctionné. De toute façon, le cercle magique n'a pas encore été reconstitué, ça ne devrait pas tarder. Cette légende des crânes de cristal est très puissante et depuis très longtemps, déjà en 1929, vous citiez Indiana Jones naturellement, Mathieu, mais en 29, dans le soulier de satin, Claudel mentionne une boule divinatoire qui n'est autre qu'une tête de mort en cristal de roche offerte au roi Philippe II d'Espagne. Et le crâne lui prédit la dispersion et le naufrage de l'armada qu'il vient de constituer pour envahir l'Angleterre. Plus près de nous, en 51, André Malraux illustre son essai sur l'art « Les voies du silence » d'une photo d'un de ses crânes. Bon, vous avez cité Indiana Jones, bien sûr, mais dans le jeu Assassin's Creed, on peut gagner des crânes de cristal. Voilà donc une légende qui a la peau dure et pourtant aucune trace d'elle dans les textes précolombiens, ni dans les chroniques des pères franciscains qui étaient en Amérique latine et qui ont laissé vraiment une description fidèle de tout ce qu'ils ont vu, ni dans l'archéologie. Et pourtant, des crânes de ce type ont été exposés dans des musées aussi prestigieux que celui du Quai Branly à Paris, le British Museum ou le Smithsonian Institute à Washington.
Donc des faux.
Alors comment ces faux ont-ils atterri dans les vitrines de ces vénérables institutions? Derrière toutes ces histoires, naturellement, il y a toujours un homme. Et alors pour l'affaire des crânes de cristal, tout est parti d'un certain Eugène Boban du Verger, l'un des plus grands arnaqueurs de l'histoire de l'art méso-américain. C'est un autodidacte, il s'est installé au Mexique à la fin des années 1850 et sur ses cartes de visite, il s'autoproclamait antiquaire de l'empereur Maximilien, alors que l'empereur Maximilien était venu une seule fois dans son magasin. La visite s'était conclue par la vente de 3 vases, non pas précolombiens mais chinois, lesquels vases chinois étaient d'ailleurs des copies qui avaient été réalisées au Mexique à Puebla. Et une chose en entraînant une autre, Boban fait fabriquer ses faux crânes. Il vend le premier en 1870 et le crâne atterrit au musée de Turin de 2 ans plus tard. C'est le début de cette aventure des faux crânes. Alors c'est raconté de façon extrêmement savoureuse et toutes les histoires sont racontées comme ça, avec beaucoup d'humour. Le royaume des faussaires est pavé de bonnes ou de mauvaises intentions. Et son jet nous raconte-t-elle que le grand Michel-Ange lui-même se compromit en refilant à un cardinal un cupidon dormant, supposé antique, en réalité sculpté de sa main. Oh. Ah, chapeau Michel-Ange. Vous voyez, c'est ça la tonalité de ce livre. C'est vraiment léger, érudit. J'ai beaucoup aimé et je vous le recommande chaleureusement.
Merci beaucoup Clémentine. D'autres faux trésors et impostures sont à retrouver dans le livre du même nom signé Marie-Ève Stenuit et paru aux éditions du Trésor. Ça tombe bien, c'est bien vu.
Ça tombe parfaitement bien. Et on dit aussi que le jour où on réunira les 12 crânes de cristal, Stéphane Bern remportera enfin le quiz.
Non, je l'ai souvent remporté. Vous le savez très bien.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Souvent, après le quiz, et donc deux fois sur trois après la défaite, Stéphane Bern demande à ce qu'on fasse un break pour qu'il puisse appeler Nana Mouskouri, la seule à même de le consoler dans ces moments-là.
Allô ? Aïe, oui, pas besoin de vous dire que ça fait vraiment très mal.
Stéphane, Nana vous écoute. À défaut d'être performant, tâchez au moins d'être digne. Jouons à Bern to be alive.
Le téléphone pleut.
Vous le tenez bien, celui-là. Très bien. Question numéro 1, Stéphane. Est-ce que vous espérez glaner un point comme ça avec cette petite interprétation
de vous avez... Je n'espère plus rien de vous.
Comme vous, Stéphane, Néron aimait les combats de gladiateurs.
Non, mais vous n'êtes pas possible.
D'ailleurs, ce dernier utilisait des sortes de lunettes de soleil pour regarder ce spectacle quand il faisait beau. Vrai ou faux? Néron avait des Ray-Ban. Enfin, des lunettes de soleil, c'est ma question.
Là, alors vraiment, j'ai beau réfléchir, c'est oui ou non, vous voyez, c'est pas...
Ah, est-ce qu'il aurait pu avoir, avoir du verre fumé? De toute façon, le verre existe, mais... Oui. Mais
il se protégeait du soleil, mais...
Ou alors avec une sorte de... un genre de casquette, une
c'est
visière...
C'est pour éviter qu'on voit son regard.
Non, pour
mais
se
je
protéger...
Je ne peux pas vous donner d'éléments,
ce qui me
vrai
paraît étonnant, c'est que j'ai raconté maintes fois l'histoire de Néron...
Sans jamais mentionner.
Et vous n'avez jamais parlé de ces lunettes. Mais il y a un vélum, de toute façon...
possibilités. Soit vous avez été incomplet... Ouais. Soit c'est faux.
Au cirque, vous avez un vélum et l'empereur est toujours sous, une sorte de dais.
Il aurait
vous ne voyez pas Néron avec des lunettes de soleil?
Non, mais il avait un vélum, vous voyez. Il avait... L'empereur était protégé, vous voyez. Puis,
L'empereur était protégé du soleil.
Non, et puis, je crois qu'on on devait voir son regard. Il ne fallait... il pouvait pas cacher son regard à la foule.
Ma question n'est pas de savoir s'il était protégé du soleil, c'est de savoir s'il avait quelque chose qui s'apparentait à des lunettes de soleil. Sur son nez, pas... D'ailleurs, pas une casquette, pas une
ombrelle. Oui, je vais vous dire non, mais ça va être oui. Alors, je vous dis non.
Vous avez perdu.
Vous allez pouvoir appeler Nana Mouskouri, à mon avis. C'était vrai, Stéphane. Plus exactement, des lames d'émeraude polies et lustrées. Elles venaient d'une mine en Autriche exploitée par les Romains. L'émeraude était aussi censée prédire l'avenir, mais là, en l'occurrence, Néron s'en servait pour regarder au soleil les combats de gladiateurs. Oui, sinon, il était ébloui. Ça ne figurait pas dans votre portrait
alors,
de Néron.
Alors là, j'ai appris quelque chose. Je vous remercie. Vous ne le saviez pas vous-même.
Non, puisque vous ne l'avez pas dit dans votre portrait. Moi, ma culture historique vient de vous. Tu vois. Donc s'il y a des omissions comme ça, voilà. Question numéro 2. Clémentine, pour vous. Fils de Zeus et de Leto, Apollon fut le frère jumeau d'Artémis. Grand séducteur, peu de femmes résistent à Apollon. On citera Hyacinthe. Selon la légende, elle va se transformer en Hyacinthe pour lui échapper. Vrai ou faux?
En jacinthe peut-être, mais peut-être pas en hyacinthe.
Oui,
comme oui bon, bah, voilà. Ça va, Stéphane.
Puis alors, quand vous êtes une jacinthe, alors qui se transforme en jacinthe.
Ah non, le prénom, c'est jacinthe.
Oui, c'est non, jacinthe. C'est hyacinthe. Je vous parle.
Il y a les deux.
On
y a les
citera
deux.
Hyacinthe, qui, selon la légende, va se transformer en jacinthe pour échapper à Apollon. Est-ce vrai ou faux? Et attention, alors, Stéphane, de ne pas nous emmêler les pinceaux.
Oui, je trouve que c'est tout à fait une belle histoire,
une
extrêmement
belle histoire.
Poétique. Je dirais que... est-ce qu'il y a des jacinthes en Grèce? Oui, il y a des jacinthes en Grèce.
Il y en a
Grèce,
dans le jardin de Stéphane, après, est-ce qu'elles sont importées?
Est-ce que vous avez des jacinthes
endémiques
en Grèce, Stéphane, chez vous, dans votre jardin? Il fait trop chaud, hein. Vous savez que toutes les cérémonies qui consistaient à planter des graines, de fertilité, on plantait des graines elles crevaient très vite parce que...
Sont des plantes à bulbes, vous savez, les jacinthes.
Oui, c'est ça, mais est-ce qu'il ne fait pas trop chaud
C'est au printemps, vous savez, tout. Moi, quand
j'aime bien cette histoire de toute façon. Oui, j'aime bien cette histoire de toute façon.
Vous répondez.
Je réponds oui, elle se transforme en jacinthe.
Vous avez perdu.
Perdu, mais vous avez presque gagné. C'est l'histoire. L'histoire est presque vraie car Hyacinthe était un homme qui a bien succombé au charme d'Apollon, mais qui, une fois mort, va se transformer en jacinthe. Par contre, c'est Daphné qui va vouloir échapper à Apollon et elle va se transformer en.
Daphné en.
Là, il peut y en avoir en Grèce et Stéphane. Il y en a chez moi dans le sud de la France.
C'est pas des...
C'est une fleur.
C'était sur la tête de César.
Des lauriers.
Des lauriers.
Oui, Daphné. Des lauriers. Oh, Stéphane, ah oui. Voilà.
Daphné pourra peut-être se transforme valoir un point supplémentaire. En laurier.
Ouais, Daphné se transforme en laurier. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. L'histoire du Taj Mahal n'est pas aussi belle qu'on pourrait le croire.
Non, non,
Shah Jahan est fou d'amour pour sa femme Mumtaz Mahal. Elle agonise suite à un accouchement compliqué. Avant de mourir, elle va lui demander deux choses. Construire le célèbre temple à la gloire de leur amour, mais également se marier avec leur fille la plus âgée. Vrai ou faux?
Bon, c'est dégoûtant.
C'est faux cette histoire.
Non, ça, je peux pas accepter.
Ça, vous, même en Inde, vous avez vu des choses.
Ouais, j'ai vu des choses.
Vu des choses choquantes.
Oui, mais quand dans Podane, l'épouse du roi lui dit « Je veux que tu épouses une femme ». Ah oui, c'est un inceste, mais c'est l'inceste se produit sous toutes les latitudes, ce que je sache, hélas. Donc, qu'elle ait pu exiger ça.
Moi, je crois que Mumtaz Mahal, en rendant son dernier soupir,
n'aurait
comme
pas
moi
fait
maintenant,
une chose pareille.
Je pense que Shah Jahan est resté éploré tout au long de sa vie, il n'a pas pu se remarier.
Donc vous
Shah Jahan, c'est faux cette histoire.
Vous avez gagné.
Oh, l'amour triomphe, c'est
oui,
beau.
Oui, la deuxième volonté de la reine sera justement qu'il n'ait aucun autre enfant. Hein. Le Shah Jahan a été le 5e empereur mongol. Nous étions au 17e siècle. Clémentine, question 4, restons en compagnie des Mongols. Est-ce que le Shah Jahan, dont nous parlions à l'instant, a vu de son vivant justement la fin de la construction du Taj Mahal?
Là, il y a une histoire. Je crois qu'il y a une histoire. Il n'y a pas une histoire où on a crevé les yeux aussi de
l'architecte pour qu'il ne puisse pas.
Il y a une histoire horrible.
Écoutez, alors, sa femme est morte. Il devait avoir quoi? Bon, ça a pris combien de temps la construction du Taj Mahal?
Un certain temps.
Oui.
Un temps certain.
Non, il n'a pas vu, hélas. Il est mort avant de voir son œuvre.
Je vous propose une autre réponse.
Mais il avait tellement envie de le voir terminer que finalement, il s'est accroché à la vie.
Oh oui. Oh,
vous
c'est
avez
beau.
Gagné.
Stéphane, inspirez-vous un petit peu du talent, de compétence.
C'est le sursaut
de Clémentine.
Surtout du fait que vous lui avez donné le point, là.
Pas du tout, je l'ai légèrement guidé vers la bonne réponse, sachant que c'était oui, non. Réponse oui. Il a vu, le Shah Jahan, il a vu la construction, mais il l'a vu depuis la prison.
Ah.
La santé de Jahan était déclinante. L'un de ses fils, très sympathique, en a profité pour le faire emprisonner, pour pouvoir se lancer dans des guerres de conversion contre des provinces hindouistes. Son père ne lui demande alors qu'une chose, qu'on fasse un trou dans le mur de sa prison pour qu'il voie la construction de son temple. Il est fini en 1653 et lui, il meurt en 1666.
Ah,
ce qui nous amène, logiquement, Stéphane, à la question 5.
Miraculeusement.
1897, un procès étonnant se déroule en Virginie-Occidentale aux États-Unis. Zona est retrouvée morte. Le médecin Knapp arrive sur les lieux où il trouve le mari, prénommé Edward. La mère de la victime est persuadée que son gendre a brisé la nuque de sa fille. Un témoin étonnant va faire basculer le procès. Lequel? Trois propositions. Le chien du cadavre, le bébé du cadavre car elle était enceinte, ou le cadavre lui-même?
Le chien.
Le cadavre lui-même.
Le chien. C'est-à-dire, Stéphane, que d'après vous, dans ce procès, le chien a été appelé à témoigner.
Non.
Ah bah,
il a dit le
Médor,
chien.
Dites-nous ce que vous avez vu.
Non, c'est
et le ça a été
chien.
Traduit.
Le chien a dû avoir une réaction.
Une réaction.
On lui a présenté. Voilà.
Eh bien, Stéphane, c'est Clémentine qui remporte le quiz. C'est le cadavre lui-même qui a fait basculer le procès. Comment? Pas un médecin légiste ou quoi que ce soit. La mère de la victime va faire du spiritisme pour entrer en contact avec sa fille. L'esprit de sa fille va lui dire que c'est effectivement son mari qui l'a tué. L'avocat du mari décide alors de raconter cette histoire au juré pour décrédibiliser la parole de la partie adverse en disant que le seul témoin dans l'affaire est le cadavre. Problème, le jury sera convaincu. C'est le seul procès criminel où c'est le témoignage d'un fantôme qui a fait basculer une affaire.
Formidable, belle histoire.
Bravo Clémentine.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, 2 heures pour découvrir des personnages hauts en couleur qui ont marqué l'histoire, en compagnie d'un animateur qui lui aussi a déjà marqué l'histoire. Beaucoup s'interrogent, quel est le secret de Stéphane Bern? Une culture encyclopédique, bien sûr, une diction parfaite, évidemment. Beaucoup de travail, on s'en doute.
Mais aussi un peu de Marie-Joanna.
Bien sûr, mais ne révélons pas tous vos secrets, Stéphane, nos personnages en ont suffisamment comme ça. Hein.
Oui, absolument, mais en plus c'est faux. Aujourd'hui, on réunit des folles de fouilles. Après Christiane Desroches-Noblecourt en Égypte, je remonte plus haut dans le temps, direction l'Iran. Je vous raconte Jeanne Dieu Lafoy, l'archéologue et écrivaine qui a franchi toutes les barrières, en pantalon s'il vous plaît, et pour donner au Louvre quelques-uns de ses plus beaux trésors de Perse. Quant à vous Mathieu, vous nous frottez, si j'ose dire, cet après-midi, à une légende du showbiz qui fouille aussi. Mais plutôt dans votre vie, en tout cas dans la vie des stars, Mimi Marchand.
Michel Marchand, alias Mimi Marchand, règne sur le petit monde des paparazzi français en nourrissant, via ses agences de presse, de nombreux hebdomadaires friands de photos volées. Est-ce elle qui est derrière le célèbre cliché dit du teckel à poil dur dans la baignoire de Berne ? La réponse dans quelques minutes.
Non, j'ai pris la photo moi-même.
Oui, vous n'avez même pas besoin de paparazzi.
Je me paparazzi moi-même. Sans oublier nos célèbres chroniqueurs, David Castillo-Lopez qui remonte aux origines d'une invention. Et aujourd'hui, il nous raconte les origines du shampoing.
Tout à fait, tout à fait. J'essaierai de vous détailler aussi quelles sont les différences entre le shampoing et le savon.
On peut se savonner avec du shampoing, mais on ne peut pas se shampouiner avec du savon.
On peut faire les deux. On peut aussi.
Ah non, on ne peut pas se shampouiner avec du savon. Vous avez déjà essayé ?
Et d'où vient ce mot shampoing ?
Ça marche bien, mais ça marche.
Et le mot shampoing ?
Je vous dirai tout ça, figurez-vous.
De quelle langue ça vient ? Vous savez, vous avez toutes les réponses.
Je sais tout ça.
Parce qu'il y a un point G à la fin.
Bon, d'accord, c'est pas. Très bien, très bien.
Et pour les cheveux fins, on utilise lequel ? Parce que moi, j'ai des cheveux très fins.
Ouais. Ma connaissance ne va pas jusque-là.
Ça va être un tuto beauté.
Avec Olivier Pouls, on remonte aux origines d'une recette, en l'occurrence, le potage de petits pois, Saint-Germain.
Le potage Saint-Germain, ouais, exactement. C'est un potage de saison.
C'est
parce
froid,
que le petit pois. Non, ça se sert chaud, mais ça peut aussi se servir froid, figurez-vous.
Parce qu'il y a un potage froid de petits pois qui se mange, qui est très très bon.
Ah ben, vous pouvez,
sans aucun problème, le servir froid. C'est vrai que les petits pois, c'est aussi bon froid que chaud.
Olivier Pouls, une fois que vous aurez terminé votre chronique, il y aura la lutte finale. Ouais. Je crois que nous sommes au coude à coude. Je crois même que nous avons le même nombre de points.
Non, je crois que je suis encore.
Oui, bon, ça va, on verra bien. Ça sera la lutte finale. Tout à l'heure, le quiz en fin d'émission.
Vous allez
tout
perdre,
de suite,
Mathieu. Vous allez perdre.
Tout de suite, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle est une femme irréductible, sans peur et sans maître.
Sonia Mabrouk.
Oh, plus encore, Stéphane. Elle est l'une des premières femmes à avoir pratiqué l'archéologie à la fin du 19e siècle, l'une des rares aussi à son époque, à enfreindre la fameuse loi qui interdisait aux femmes de porter le pantalon. Stéphane Bern nous raconte Jeanne Dieu Lafoy.
Nous sommes le 7 juin 1881 à Téhéran, sous le règne de Nasreddin, monté sur le trône 30 ans plus tôt. L'Empire iranien vit une ère de progrès et d'ouverture au monde. En cette très chaude journée du printemps, d'ailleurs, deux Français sont attendus au palais pour une audience avec le Shah. Ce sont deux archéologues partis de Marseille quelques mois plus tôt et qui ont pour objectif de rejoindre Suse, cité identifiée comme le site biblique de Shushan, l'une des plus vieilles villes au monde. Il est environ 18h lorsque la voiture du Premier ministre fait pénétrer les deux individus dans l'enceinte du palais. Située au centre de la ville, celle-ci est extrêmement vaste. Elle comprend, outre de grands bâtiments étrangement assez rudimentaires, de très beaux jardins où poussent des arbres somptueux et où les bassins sont décorés d'une éclatante faïence bleu turquoise. C'est justement dans l'un de ces jardins que le monarque perse va recevoir les deux archéologues. La visite n'en sera que plus informelle, et c'est tant mieux, car les deux voyageurs ont tant bien que mal essayé d'être présentables pour cette entrevue royale. Mais ils n'en restent pas moins habillés très simplement, pantalons et vestons de voyage. Le premier, le plus grand des deux, a les yeux marrons, le visage rond et l'air bienveillant. Le second, plus menu, a les yeux d'un bleu clair et perçant. Ses cheveux coupés courts dégagent un visage poupin presque angélique. Ils portent tous les deux le même nom, Dieu Lafoy. Après une courte attente, le Shah annoncé par ses serviteurs arrive. Assez sobrement vêtu, lui aussi, une capote militaire est négligemment jetée sur les épaules. « Votre Majesté me permet-elle de lui présenter Madame et Monsieur Dieu Lafoy ?» Abasourdi, le roi de Perse a du mal à le croire. « Comment ? Ce jeune garçon est une femme ? » s'exclame-t-il en persant. Puis, s'adressant directement à l'intéressé, il lui demande dans un français remarquable la raison de cet étrange travestissement. C'est une voix effectivement féminine qui lui répond non sans une certaine hardiesse, parce que je voyage ainsi plus facilement et que je passe inaperçu. À seulement 30 ans, Jeanne, Paul, Henriette, Rachel Dieu Lafoy, dite Jeanne Dieu Lafoy, n'est pas du genre à se laisser impressionner et encore moins dicter sa conduite. D'origine toulousaine, la jeune femme en a vu d'autres déjà. 10 ans plus tôt, quand a éclaté la guerre franco-prussienne, elle n'a pas hésité à endosser l'uniforme de franc-tireur pour rejoindre son mari dans l'armée de la Loire. Car Jeanne est d'un courage peu commun. Non seulement elle n'a peur de rien, ou presque, mais c'était aussi un esprit libre, passionné, aventureux, avide d'aventure, donc d'action et d'absolu.
Et peu lui importe que le pantalon soit interdit aux femmes depuis 1800. Les lois non plus ne l'effraient pas. À cet égard, elle et son mari, Marcel Auguste, se sont bien trouvés. Lui aussi ne se laisse pas facilement contraindre à une étiquette. Ingénieur civil de profession, Marcel, Dieu la foi, a décidé qu'il poursuivrait un temps la carrière d'archéologue. Et pourquoi pas, finalement, lui qui se passionne pour l'architecture moyen-orientaliste a envie d'aller la découvrir à sa source. Un soutien de taille l'encourage, un confrère très influent, Eugène Viollet-le-Duc, pour qui Marcel Auguste a travaillé. Le grand architecte français, spécialiste de la restauration de constructions médiévales, a très envie de mieux connaître les influences du Moyen-Orient sur ce Moyen-Âge qu'il affectionne tant. Alors c'est décidé, Marcel, Dieu la foi, part. Il part pour un incroyable voyage d'études de près de 6000 km à travers la Grèce, la mer Noire et l'Azerbaïdjan, direction la Perse et les trésors enfouis de Suse. Et il ne part pas seul. Il est accompagné de son épouse, esprit très cultivé et passionné comme lui, d'art et de culture islamique. Ce périple en terre perse, débuté en février 1881, durera près d'un an. Un an à étudier les merveilles architecturales de l'Empire, à les photographier consciencieusement pour Jeanne et à consigner par écrit en détail toutes leurs aventures, leurs rencontres et leur travail de recherche. Car la jeune femme s'est découverte un goût pour l'écriture qu'elle manie d'ailleurs avec un indéniable talent. Le voyage, bien qu'enrichissant, était éreintant pour le couple. À bout de force et à court d'argent, Jeanne et Marcel rentrent en France en 1882, des découvertes plein les yeux et leur carnet, mais sans avoir pu explorer leur but initial, la cité de Suse. Un échec ? Oh, pas vraiment, car leur voyage n'est pas passé inaperçu. Les travaux qu'ils rapportent ont attiré l'attention du gouvernement français et des musées nationaux. Le journal de bord tenu par Jeanne a même été publié dans une revue et il leur vaut une certaine notoriété. Fin 1884, c'est donc en mission archéologique officielle qu'ils repartent en Perse et avec le soutien du Louvre. Ils y mènent une première campagne de fouilles de quelques mois, puis une seconde l'année suivante. Jeanne, officiellement en charge de la documentation photographique, ne se cantonne pas à cette seule attribution. Dès qu'elle en a l'occasion, on la voit, elle aussi, agenouillée dans la terre ou la boue, à creuser à coups de pioche cette terre sacrée et millénaire de Suse, la fouiller sous une chaleur écrasante ou sous des pluies diluviennes, vêtue évidemment du plus pratique des attirails pour le faire, un pantalon. C'est elle d'ailleurs qui met à jour à Suse l'un des plus grands chefs-d'œuvre perses actuellement visible au Louvre, la frise des archers. Une frise qui ornait autrefois l'Apadana, la grande salle du trône construite au VIe siècle avant Jésus-Christ par le souverain achéménide Darius Ier. À son retour de Perse en 1886, Jeanne Dieu la foi devient une personnalité en vue de la scène intellectuelle parisienne, une émancipée à qui personne, et encore moins les figures scientifiques et littéraires qu'elle côtoie, n'ose désormais reprocher ses vêtements masculins. Il faut dire qu'elle est désormais décorée de la Légion d'honneur et que, consécration, une salle portant son nom, Dieu la foi, a été inaugurée dans la toute nouvelle aile perse du Louvre. En parallèle, elle continue d'exercer sa passion pour l'écriture. Journaliste, romancière, Jeanne Dieu la foi devient une écrivaine prolifique et engagée, participant notamment à la création du prix Femina. En 1890, elle publie un premier roman historique, Parisatis, l'histoire d'une reine perse. Depuis son troisième voyage en Perse, elle n'a d'ailleurs plus que l'écriture pour nourrir sa passion pour l'Iran. Le gouvernement a préféré confier la poursuite des fouilles de Suse à un autre. Le cœur lourd, le couple se rabat sur des voyages d'études en Espagne, au Portugal, pays dont ils finissent par s'éprendre tout autant. Ils s'y rendront 23 fois en 25 ans. Entre autres travaux, Jeanne y rassemble la documentation nécessaire à l'écriture d'une biographie d'Isabelle Ier de Castille, dite Isabelle la catholique. Sa dernière fouille, elle l'amène à 64 ans au Maroc, durant la Première Guerre mondiale. À la faveur de la mobilisation de Marcel à Rabat, elle le convainc de creuser les ruines de la grande mosquée de Hassan, dont il ne reste qu'une tour. Une décision hélas funeste. Durant le chantier, elle contracte une forte fièvre qui la contraint au rapatriement. Elle n'y survivra pas et meurt en mai 1916, obligeant depuis les historiens à fouiller pour savoir qui elle était.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Jeanne Delafoy, nous sommes avec la philosophe Hélène Soumet. Bonjour Hélène Soumet.
Oui, bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Hélène Soumet, vous êtes professeure de philosophie et vous êtes l'auteur du livre Insoumise et conquérante, travestie pour changer le cours de l'histoire, paru aux éditions Duno, et dans lequel vous consacrez un chapitre à Jeanne Delafoy. Elle a réussi ce pari pour vous, celui de changer le cours de l'histoire grâce à ses propres transgressions ?
Oui, parce que d'abord ce sont vraiment des transgressions, parce que le vêtement masculin est un sacrilège pour l'Église, il est illégal et il est contre la tradition d'avoir une sorte d'ordre social où les sexes sont bien séparés. Les transgressions aussi c'est de sortir, de vivre à l'extérieur, d'agir et de refuser évidemment la vie d'épouse modèle qu'on lui proposait. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est considérée naturellement comme l'égale des hommes et elle a agi, entre autres, comme archéologue en refusant la vie qu'on lui proposait. Elle a aussi changé un petit peu le cours de l'histoire dans la mesure où elle a, dans ses livres, refusé l'ethnocentrisme. Par exemple, à l'époque, on qualifiait les Perses de barbares. La tenue des femmes était une offense à la religion à cause du pantalon. Et elle a montré que les Perses n'étaient pas aussi barbares que cela.
C'était clairement une femme avide de liberté, on l'a bien compris. Mais est-ce qu'on peut pour autant la considérer comme une pionnière du féminisme ? Vous écrivez que malgré sa transgression vestimentaire, elle manifeste au fond un certain conservatisme.
Oui, dans ce sens, parce que elle n'est pas... Enfin, les féministes, c'est différent des travestis. Les féministes, elles protestent, elles revendiquent, elles réclament, elles demandent aux hommes la permission de ceci, l'autorisation de cela. Les travestis, pas du tout. Elles ne réclament rien, elles n'attendent pas à l'autorisation des hommes, et parce qu'elles sont sûres de leur égalité, elles ne la revendiquent pas, parce qu'elles sont sûres. Elle a fait, bien entendu, avancer la cause des féministes.
Quelle personnalité vous avez décelé lorsqu'on lit les écrits de Jeanne Delafoy ? C'était une femme entêtée, mais en même temps, elle est un peu têtue, non ?
Oui, elle est un petit peu têtue, mais si c'était un homme, on ne dirait pas qu'elle est têtue.
Non, je dirais qu'elle est là-dessus dans les idées.
Donc non, elle n'est pas plus têtue que n'importe qui, simplement.
Non mais elle ne manque pas de courage. Autrefois, on dirait qu'elle a des qualités qu'on connaissait aux hommes. Elle a du courage, elle ose des choses incroyables.
Oui, non, mais elle vit sa vie comme le ferait un être humain, parce qu'on n'est plus dans cette question du sexe ou du genre, on est dans la personne humaine, donc la personne humaine, elle veut se réaliser, elle veut vivre, elle veut faire de l'archéologie, elle se cultive, elle veut vivre sa vie, simplement.
Mais aujourd'hui, on la comprend totalement avec nos lunettes actuelles, mais qu'est-ce que Jeanne Delafoy, cette femme aux cheveux courts, on le rappelle, qui a abandonné les corsets pour l'habit masculin, qu'est-ce qu'elle inspire à ses contemporains à l'époque ? Est-ce qu'elle choque ?
Ah oui, alors elle choque, mais vous voyez, comme en même temps elle est célèbre et elle a été décorée de la Légion d'honneur, elle a aussi une certaine prestance et une grande culture, donc elle choque, mais le choc qu'elle provoque, on ne peut pas l'attaquer de front. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on la raille, on la ridiculise. Par exemple, on trouve des caricatures où on voit le couple Delafoy et en légende, c'est écrit dessous « Monsieur Delafoy est à gauche ». Vous voyez.
Donc, ça fait rire Stéphane, en tout cas, comme ça marchait.
Non mais je trouve ça tellement ridicule. Mais là vous avez raison, c'est qu'il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui évidemment tout ça n'a plus de sens. Mais tout de même, elle a parcouru la Perse, elle est allée à la rencontre des locaux. Qu'est-ce qu'elle raconte dans ses écrits sur la manière dont les femmes perses la percevaient ?
Les femmes lui posent beaucoup de questions parce que Jeanne Delafoy a appris le persan, donc elle parle avec les habitants. Et les femmes la harcèlent de questions et ne comprennent pas du tout sa démarche. Elles sont désolées pour elle. Elles pensent que les femmes des Farangis, c'est-à-dire des Français, sont moins heureuses qu'en Perse parce que les hommes les obligent à travailler. Donc, en fait, c'est amusant parce qu'elle note en creux que ces femmes n'ont pas du tout conscience de leur aliénation. Pour elles, le bonheur, c'est de se parer, c'est de se reposer à l'ombre, voilà, et de vivre une petite vie tranquille. Ce qui n'est pas du tout, évidemment, comme vous l'avez montré, le cas de Jeanne, oui.
Dans le chapitre que vous lui consacrez, vous racontez qu'en Perse, Jeanne Dieulafoy a croisé une femme qui était travestie, tout comme elle, et qui avait un rôle bien précis dans la société perse. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Oui, alors c'est un épisode très amusant, parce que, comme vous le savez, en Perse, à l'époque, aucun homme n'approche une femme, aucune femme n'a le droit de sortir, les hommes ne peuvent pas adresser la parole à une femme, c'est impossible. Il se trouve que Jeanne Dieulafoy rencontre une famille, c'est en fait un homme avec ses 8 femmes. Elle voit une espèce de jeune aux cheveux bouclés qui s'occupe de ses femmes, qui va de l'une à l'autre, qui leur parle. Et en fait, c'est une femme travestie en homme qui s'appelle le Pitch Ketmet, exactement, qui est une paysanne, en fait, qu'on a choisie pour sa robustesse et qu'on a travestie en homme pour qu'elle puisse justement sortir, mais en même temps parler aux femmes. Voilà.
Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui encore, l'habit masculin garantit aux femmes une forme de liberté et de sécurité dans certains contextes?
L'habit féminin a toujours été dénoncé comme quelque chose qui réduit la femme à un certain esclavage. Donc maintenant, on a le droit de se vêtir presque comme on veut, bien qu'il y ait toujours une censure sociale sur le vêtement, à part le rire, justement.
Merci beaucoup, Hélène Soumet. Je rappelle que votre livre Insoumise et conquérante, Travestie pour changer le cours de l'histoire, est disponible aux éditions d'Uno. Et on peut s'initier à la philosophie en vous suivant sur Instagram, sur le compte chouette_philo. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on réunit des folles de fouilles. Après Christiane Desroches-Noblecourt et Jeanne Dieulafoy, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une dame qui fouille toujours, mais plutôt dans l'intimité des stars.
Oui Stéphane, aujourd'hui je vous parle de celle qui est l'explication à beaucoup de choses. Par exemple Stéphane, qu'est-ce qui fait que vous êtes fidèle et qu'on ne vous retrouve pas en soirée libertine plus souvent?
Les maladies vénériennes.
Bien sûr, mais surtout...
Non, l'amour.
Surtout, parce que l'amour et parce que vous avez peur de Mimi Marchand. Mimi, un surnom si mignon qui va à Mimi Marchand comme un gant à Philippe Croizon. Car Mimi n'est pas un chaton, c'est une lionne. La terreur des people et des puissants. 3 mariages, 4 passages en prison et quelques pyjamas parties à l'Elysée. Plus tard, à 74 ans, elle est encore plus influente qu'une Instagrammeuse spécialisée dans le contouring. Fille de coiffeur devenue l'une des figures les plus puissantes de la République, elle est la taulière de la presse people. C'est la patronne des paparazzi, la papesse des révélations choc, le fils caché de PPDA et Claire Chazal. C'est Mimi, la révélation du couple Depp Paradis, encore Mimi, la soirée Monopoly Gaillet-Hollande jusqu'au petit matin. Bon là, elle dément, mais on dit que c'est elle aussi. Son parcours n'a aucun sens. Tour à tour, pompiste, garagiste, tenancière de nightclub, épouse de braqueur, épouse de flic, épouse de trafiquant, puis arrêtée pour trafic de drogue elle-même, patronne de presse, journaliste, attachée de presse, communicante politique, communicante de crise, étouffeuse de scandale, indique de la police, Mimi a eu 19 vies, soit encore plus que les chats qui en ont...
9.
Ou 7, ça dépend des pays, on l'a déjà dit. Son look est Mimi, clope, ongles rouges, moue menaçante. Voici, gala, match, closer, leur plus grande coupe, ces magazines les doivent à Mimi. Sa force, connaître ce que les autres veulent cacher, dit le complément d'enquête qui lui est consacré. Stéphane, je vous vois suer des tempes. Mimi, oui. Vous tiendrait-elle, elle aussi, par les bijoux de famille, comme on dit? Qu'est-ce qu'elle a sur vous?
Eh ben, elle a, c'est moi, rien, aucun dossier.
Rien, vous êtes rien. Sûr?
Ben, elle fait des photos, par exemple, régulièrement le 14 juillet, quand... Parce qu'elle est souvent sur mes émissions, sur les plateaux, avec
mais,
ses
mais,
photographes.
Mais elle n'a rien de croustillant pour l'instant.
Et parce qu'il n'y a rien de croustillant dans ma
bien
vie.
Bien évidemment, bien évidemment. En même temps, vous êtes très malin quand on vous questionne sur votre vie privée, Stéphane. Vous parlez toujours à mots couverts, avec des allusions évocatrices, mais sans jamais vous dévoiler vraiment, comme durant la coupure pub.
Moi, j'ai une chèvre qui s'appelle Pâquerette.
Elle est très jolie.
C'est elle qui vous a appris
à traire.
Pâquerette est-elle vraiment une chèvre ou bien est-ce une métaphore? Mais Mimi, si tu nous écoutes, à mon avis, il y a un truc à creuser. Bref, Mimi est redoutable. Pour les stars d'abord, pour lesquelles elle n'a qu'un respect tout relatif, qualifiant par exemple sobrement Kendall Jenner et Bella Hadid de pétasses, mais aussi pour ses propres collaborateurs. Très peu cliente des méthodes de management positif, Mimi Marchand a la réputation de souvent passer ses nerfs sur ses employés. « Ça va chier des rondelles de zinc » est une de ses expressions préférées en conférence de rédaction. « Je vais l'envoyer dans la Seine avec des Nike en béton » est la formule qui lui vient lorsqu'elle estime qu'un collaborateur n'est pas à la hauteur. Son histoire commence dans l'immédiate après-guerre. Mimi, de son vrai nom Michel Marchand, voit le jour en 1947 en banlieue parisienne, dans une famille modeste d'anciens communistes résistants, comme à peu près un de mes personnages sur deux en ce moment. Fille de coiffeur à Vincennes, elle est enfant unique et, déjà très jeune, un brin rebelle. Et par rebelle, je ne veux pas dire rebelle à balancer sous la table les salsifis qu'elle refuse d'avaler au dîner, non. Rebelle au sens où à 16 ans, elle fugue, épouse un bandit et accouche de leur enfant avant d'avoir atteint la majorité. Alors, son mari, gangster, étant infidèle, elle décide de le quitter, puis de changer franchement de voie en s'inscrivant en licence de maths. Alors, c'est sympa les maths, mais 5 minutes, car ensuite, Mimi change encore d'orientation et commence à bosser dans l'univers automobile. D'abord chez un équipementier, puis en tant que caissière dans des garages parisiens. Là, elle décide de changer de région pour diversifier son savoir-faire. En mécanique, elle fait quelques kilomètres et déménage en Californie. Là-bas, elle décide de retaper des maisons, puis, tu sais pas pourquoi, des Peugeot 403.
Elle était dans les garages, c'est vrai.
Ben oui, c'est vrai. Elle retape la voiture. Une voiture comme celle de Colombo, se souvient-elle, nostalgique. Peugeot qu'elle récupère à la casse en France, puis qu'elle renvoie à Tijuana, où elles sont, je cite, transformées en petits bijoux. Ça partait comme des petits pains, se rappelle-t-elle fièrement. Mais rapidement, elle en a sa claque des Amériques, et elle a ce mot merveilleux de lucidité. Au fond, Los Angeles, c'est Angoulême avec les palmiers. Retour en France. Nous sommes dans les années 70 à Paris. Un soir, elle fait réparer sa voiture dans un garage, décidément. Elle finit par faire une révision totale, au sens où elle devient associée dans l'affaire et elle se met en couple avec le patron du garage. Quelle soirée! D'autant qu'il s'agit d'un garage un peu particulier, ouvert 24 heures sur 24. Qui n'a jamais eu envie de se faire lustrer le pare-choc à 2h du matin? Mimi voit alors défiler le tout Paris by night. Elle dépanne les stars, les policiers, les voyous et commence à se constituer un solide carnet d'adresses. Puis elle se lance dans le milieu de la fête. Elle ouvre des boîtes lesbiennes qu'elle monte avec une amie d'enfance, notamment le Memories.
Ah, j'adorais.
Non, bah, vous n'étiez pas le seul.
C'est j'ai jamais allé.
Le Memories. Comment Mimi parvient-elle à se faire une place dans ce milieu de la nuit très masculin? Eh bien, déjà en recadrant les petites frappes. La tôle, je l'ai faite comme vous. Les coups de canif, je peux les donner comme vous, leur dit-elle. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de vous parler de ses petits séjours en prison. En 1986, pour la première fois, elle est emprisonnée pour chèque sans provision. Puis en 88, elle fait encore 2 ans de prison pour complicité de braquage commis par son mari. En 94, elle est arrêtée à nouveau avec 500 kilos de hashish en rentrant du Maroc. Alors, à mon avis, c'est plutôt 50 kilos de hashish, parce que 500 kilos de hashish, à mon avis, il fallait une grosse remorque. Sans conteste, elle aurait mieux fait de rapporter un faux sac à main Louis Gritton. Mais rassurez-vous, elle ne restera incarcérée que 2 mois grâce à ses contacts. Mimi connaît des policiers de haut rang. En sortant, elle cherche à changer de vie. Elle trouve un fauteuil chez Voici en 95. Avec ses contacts, elle se rend immédiatement indispensable, 99% des sujets people viennent d'elle, jusqu'au jour où Mimi monte de toutes pièces une interview fictive du garde du corps de Lady Diana, seule survivante de l'accident de l'Alma. 3 pages d'interview extrêmement détaillées, mais fausses, puisqu'on apprend très vite que Mimi ne l'a jamais rencontrée. Elle a un rapport ambigu avec la vérité, dira l'un de ses biographes. Ah bon ? Scandale chez Voici, qui doit reconnaître publiquement sa faute. Mimi est poursuivie pour faux et usage de faux. Elle se fait virer du magazine. Et pourtant, Voici a besoin d'elle, de son savoir-faire, de ses contacts, de sa valise à chantage. Sans elle, le magazine ne serait presque aussi chiant que Télérama. Elle va donc rester aux manettes, mais dans l'ombre. En 2007, Mimi Marchand cofonde le site Pure People, que vous connaissez tous, qui fait le buzz en publiant les photos de Carla et Nicolas en train de faire la queue leu-leu avec Mickey à Disneyland Paris au début de leur histoire. Rapidement, le site comptabilise près de 20 millions de visiteurs par mois. En parallèle, Mimi monte une agence de photos de célébrités, Best Image, c'était un succès, Ségolène Royal en maillot de bain, Nicolas Sarkozy faisant un bisou esquimo à Carlita. Elle est responsable de la pipolisation de la vie politique, déclare François Hollande. Cerise sur le gâteau, Mimi a ses entrées à l'Elysée. Vous le savez, déjà proche des Sarkozy, elle est désormais encore plus des Macron. En 2016, elle fait leur connaissance grâce à Xavier Niel au cours d'un dîner. Manu et Bibi ont un coup de cœur pour Mimi. « Méfiez-vous, cette femme est capable de tout », leur dit-on. Bibi et Manu s'en moquent, ils n'écoutent personne, même pas vous Stéphane. Mimi convainc alors Bibi de poser en maillot sur la plage avec Manu. C'est sa mise en scène préférée, il faut montrer de la cuisse. « Toute la France parle de votre différence d'âge ? Eh bien, tu vas leur en mettre plein les mirettes. Assume, tu es belle !» dit Mimi à Bibi qui accepte. Le concept de la fausse paparazzade, c'est son truc à Mimi, elle sait ce qu'elle fait. Elle les met en une de match, alors qu'Emmanuel Macron ne s'est pas encore annoncé candidat. En une couve, le couple déjà commence à fasciner le pays, la machine est lancée. On peut le dire, je crois. Stéphane, Mimi Marchand a contribué au moins autant que vous à la première élection d'Emmanuel Macron.
Beaucoup plus que moi, j'ai rien fait.
Plus que vous. Vous la croisiez souvent à Mimi à l'époque?
Bah oui, déjà, parce que Best Image, vous savez, c'est toujours l'agence de photos.
Elle est tout le temps là. Toujours sulfureuse, Mimi compte aussi à son palmarès récent avoir conseillé Benjamin Griveaux au moment de l'affaire de la vidéo, avoir hébergé Benalla en plein scandale. Et au fait, les amours. Après avoir été mariée à un gangster surnommé Afed, puis à un braqueur prénommé Maurice, elle est en couple depuis 2015 avec un ancien policier des renseignements généraux qui travaille maintenant pour elle. Ça, c'est hyper pratique. Juge, flic, politique, homme d'affaires, journaliste, en 30 minutes, elle peut vous sortir de n'importe quel bourbier, à quelques exceptions près. Le 5 juin dernier, Mimi est mise en examen pour subornation de témoins et association de malfaiteurs après la rétractation de Ziad Kiakhidine dans son témoignage concernant l'affaire Sarkozy-Kadhafi. J'espère que vous n'avez pas trempé là-dedans, Stéphane.
Ah,
parce que je sais qu'elle a un truc exposé sur vous. Je le sais, puisque l'autre jour au téléphone, vous lui disiez...
Allô ? C'est un registre ?
Non, les mecs, là, moi je saute.
Vous pouvez l'avouer maintenant. C'est pas vraiment une chèvre, cette pâquerette, Stéphane.
Ah, Mais vous êtes incroyable.
Mais vous la connaissez bien, Mimi Marchand.
Je la connais bien, je la vois tout le temps.
Non, c'est parce que je voulais dire, c'est pas la question, oui. Vous la voyez tout le temps et partout, j'ai compris. Oui. Vous faites des dîners avec elle un petit peu?
Non,
ah non,
jamais.
C'est pas vous.
Non,
voilà,
jamais.
Une fricotée, pas
un... Non. En tout cas, merci Mathieu de nous avoir éclairé sur cette fouilleuse.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos folles de fouilles.
Pour retrouver Stéphane, nos fous de... Non, je ne trouve pas de contrepèterie, mais ils sont là. Olivier Pouls et son potage Saint-Germain. Ce que vous appelez le caviar vert,
ouais,
pour arnaquer vos invités, il faut bien le dire.
Mais non, je vous expliquerai pourquoi c'est vraiment du caviar vert.
Le petit pois, hein, précise.
Oui,
tout de suite, David Castello-Lopez nous fait découvrir l'origine du shampoing.
Vous le savez, la question des cheveux, pour moi, est délicate. quand j'avais 16 ans, j'étais dans la cour du lycée avec mon amie Louise et un certain nombre d'autres garçons.
Qui c'est celle-là?
Et Louise, elle a fait quelque chose de cruel. Elle a pris les garçons un à un et elle nous a plaqué les cheveux en arrière avec sa main pour prédire si oui ou non on serait chauve plus tard. Et quand mon tour est arrivé, elle a fait « Ouais, toi ouais ». Et ce moment, ça a été le point de départ d'une angoisse qui dure donc depuis 25 ans et qui a bien sûr gonflé avec l'apparition de plus en plus implacable du fait que la prophétie de Louise était en train de se réaliser.
Ça va, il y a pire.
Ah, oui, oui.
Il y a pire, mais c'est un chemin qui est pris et qui aboutit toujours au même endroit.
Il finira bien un moment,
voilà,
mais bon.
À l'absence de cheveux. Et tout ça, bien sûr, a été aggravé par le fait que mon père était chauve de chez chauve et donc l'angoisse, évidemment, de me retrouver comme lui. Alors que j'ai un frère qui lui a tous ses cheveux, enfin, c'est comme ça, c'est un petit peu triste. L'une des conséquences de cette angoisse, en tout cas, c'est que je ne mets pas n'importe quoi sur mes cheveux. Je mets sur mes cheveux des produits où il y a marqué clairement qu'ils ont été fabriqués spécialement pour être mis sur les cheveux. Et rien ne dit ça mieux que ce mot chelou entre tous, shampoing. Shampoing, S-H-A-M-P. Deux O ou un O, c'est au choix, ING. Shampoing, c'est quoi? C'est un mot emprunté directement à l'anglais shampooing, qui veut dire masser et laver le cuir chevelu. Ce mot shampooing, il vient du mot hindi, champu, impératif du verbe champna, qui veut dire masser, presser. C'est donc un mot qui vient d'Inde.
Ah, de l'Empire britannique alors?
Exactement. Et oui, le shampoing au départ, ça ne désigne pas le produit dont on se sert pour laver ses cheveux, mais tout simplement un type de massage indien, non seulement de la tête, mais aussi du reste du corps. Ah. C'est un mot qui a été popularisé en Angleterre par un monsieur indien parfaitement identifié qui s'appelait Sheikh Din Mohammed. Pas Mohamed, Mohammed. Et tout ça au début du 19e siècle. C'était à l'époque le début de la folie des bains en Angleterre, où les médecins, ils ont commencé à prescrire des bains à tout le monde, et en particulier aux riches qui avaient les moyens de se déplacer dans des villes d'eau, comme par exemple Brighton. Bath ou Brighton. Sheikh Din Mohammed, qui était marié à une Anglaise, il s'est présenté comme médecin spécialiste de l'art indien du shampoing. Ce shampoing qui consistait donc en un massage, mais aussi dans le fait de masser les cheveux et de les laver. Et il a fini par être associé, ce shampoing, donc ce massage, uniquement au lavage des cheveux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en Occident, à ce moment-là, laver ses cheveux, c'était encore quelque chose d'inhabituel. On pensait que laver les cheveux, c'était mauvais pour la santé, que ça donnait la migraine et des maux de dents. Les gens, à cette époque, au mieux, ils se graissaient les cheveux pour que la poudre ensuite tienne dessus.
Karl Lagerfeld a toujours poudré les cheveux avec du shampoing sec.
Voilà.
Jamais le cheveu, de l'eau et rien.
Héritage direct du 18e siècle. Voilà. Cette mode de se laver les cheveux, elle s'est développée dans la dernière partie du 19e siècle, à un moment aussi où de plus en plus de gens avaient l'eau courante chez eux. Alors au départ, on se lavait avec des mélanges naturels d'œufs et de citron. Mmh. Et puis petit à petit, il y a des hommes d'affaires qui ont développé des produits spécifiquement marketés pour se laver les cheveux. Et ces produits se sont appelés shampoing par métonymie. C'est la chose avec laquelle, enfin, c'est le produit avec lequel on fait la chose. Et avec les progrès de la chimie, les shampoings, ils sont devenus progressivement des produits de synthèse qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Vous savez, c'est ces shampoings qui moussent leur race et qui sentent bon. Il ne faut pas qu'ils soient détergents. Ça m'amène quand même vers une question que je ne suis peut-être pas le seul à m'être posée, à savoir c'est quoi la différence entre le shampoing et le savon, et en particulier entre le shampoing et le gel douche, qui ont l'air complètement interchangeables.
D'autant qu'il y en a qui font les deux.
Voilà, c'est exact.
Dans les hôtels, ils sont obligés maintenant pour rationaliser les
coûts. Ces shampoings et ces gels douches, c'est quand même deux choses visqueuses qui sentent bon et qui moussent. Donc, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le shampoing et le savon? Est-ce que c'est juste une différence marketing? Est-ce que c'est une vraie différence? Et si cette différence, elle existe, eh bien, à quoi elle sert? Bon, la vérité, c'est que oui, il y a une différence entre le shampoing et le savon, et que cette différence, elle sert à quelque chose. Et cette différence, si j'ai bien compris, c'est la suivante. L'une des choses qui fait que fait le savon normal, c'est d'enlever la graisse pas bien qui se forme naturellement sur notre corps et qui peut se mêler à de la poussière. Sur les cheveux, on a de cette graisse pas bien, sauf qu'on n'a pas seulement cette graisse pas bien, on a aussi une graisse naturelle sympa dont on a besoin et qui fait que nos cheveux sont brillants et jolis. Or, si vous utilisez du savon normal sur vos cheveux, pour des raisons chimiques que je n'ai pas tout à fait élucidées, il n'arrive pas à faire la différence, le savon, entre la bonne graisse sympa de vos cheveux et la méchante graisse sale. Il enlève tout, et donc si on utilise du savon normal sur nos cheveux, après les cheveux, ils sont secs et cassants. Ce que fait le shampoing, c'est qu'il arrive à enlever la mauvaise graisse en laissant la bonne. Et voilà. En revanche, il n'y a rien qui dit que utiliser du savon normal dans ses cheveux, ça les fait tomber. C'est vrai qu'en fait, à part de
quelques... Et ça mousse pas.
Ça mousse pas, mais non, c'est pas très... Enfin, en tout cas, ça ne fait pas tomber les cheveux. C'est vrai qu'à part de très rares exceptions de type irradiation nucléaire ou maladie, les cheveux, ils tombent uniquement à cause d'un gène qu'on a à l'intérieur du nous et qui les fait tomber.
C'est
et
une question de testostérone.
Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de l'accepter.
C'est quand on a trop ou pas assez?
Quand on a trop.
Ah, ouais. Trop.
C'est-à-dire donc... que votre... Vous fabriquez de plus en plus de poils, ayez la durée de vie du poil, je crois. Et dès que vous êtes un peu poilu, vous avez plus de chances de perdre vos cheveux.
Il y a aussi des gens poilus et chevelus.
C'est très bizarre. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Olivier, aujourd'hui... pas d'œufs au programme, non. Mais des petits pois, votre légume favori.
Oui, c'est mon légume favori et je ne pense pas qu'il existe de shampoing en petits pois, et ça c'est tant mieux. C'est un légume extraordinaire dont la saison est très courte. C'est globalement du début du mois de mai jusqu'à la mi-juillet. Et il faut vraiment en profiter parce que des petits pois frais, croyez-moi, c'est vraiment extraordinaire. Le petit pois, pourquoi je disais tout à l'heure que c'est le caviar vert? Parce que je pense que c'est le légume en fait le plus cher. C'est très cher le petit pois, puisque vous achetez des petits pois avec l'Écosse évidemment, que c'est, même avec l'Écosse, c'est un légume assez cher, je les ai vus autour de 10 euros sur les marchés, voire plus, mais quand vous avez enlevé l'Écosse et que vous regardez ce qu'il vous reste en matière utilisable de petits pois, franchement c'est à peine un tiers. Donc le prix du kilo du petit pois utilisable est extrêmement élevé.
Et puis je trouve qu'une fois qu'il est toujours fripé.
Alors ça c'est quand vous avez des petits pois en général qui ont subi un manque d'eau, et puis c'est surtout des petits pois, après, au plus on avance dans la saison, au plus il devient gros et au plus il devient farineux, puisqu'après il va devenir ce qu'on appelle les pois cassés. Donc il faut vraiment acheter les petits pois les plus frais et les plus petits, et vraiment garder ce petit trésor, ces petits grains qui sont un peu comme du caviar.
Vous voulez dire que tous les pois cassés ont commencé leur vie comme des petits pois normaux.
Exactement. Voilà, exactement. Ça, ouais. Alors revenons à notre recette du jour, le fameux potage Saint-Germain. Alors il ne doit pas son nom à Saint-Germain-des-Prés à Paris, il ne doit pas non plus son nom à Saint-Germain-en-Laye, mais il doit son nom au comte
de Saint-Germain,
Claude-Louis de Saint-Germain,
qui était ministre de la guerre de Louis XVI.
Exactement. Ouais. Alors à la même époque, il y a un autre Saint-Germain. Peut-être confusion, qui était Saint-Germain l'Immortel. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le petit pois est assez largement cultivé dans les Yvelines, notamment dans la région de Poissy. Le petit pois est arrivé en France au XVIe siècle, mais c'est surtout Louis XIV qui en développe la culture, d'abord à Versailles évidemment, parce qu'il en est littéralement dingue, à tel point qu'une histoire raconte qu'il a failli mourir d'une indigestion de petits pois en 1706. Il en avait tellement mangé qu'il est passé à un cheveu de la mort. Comme quoi, les petits pois, à un moment, ça peut devenir dangereux aussi. Alors, de manière générale, le département des Yvelines est très riche en culture maraîchère, mais aussi en élevage, en forêt, etc. Évidemment, l'expansion urbaine au XVIIIe siècle a commencé à réduire drastiquement cet espace, mais pendant très longtemps, les petits pois qu'on consommait à Paris étaient produits dans la grande région parisienne, et notamment dans les Yvelines. Dans la version originale de cette soupe, il y a du riz qui réalise la liaison Aujourd'hui, on l'a plutôt remplacé par de la pomme de terre. Alors, je vais vous donner la recette de ce fameux potage Saint-Germain qui peut tout aussi bien se consommer chaud que froid. Et alors, plus on va aller vers l'été, plus il va faire chaud, peut-être plus on aura envie de le laisser au frigo. Alors, il vous faut des petits pois frais écossais, évidemment, environ 400 grammes, ce qui fait un peu plus d'un kilo de petits pois bruts, hein, tout de même.
160 euros, en fait.
Ouais. Un litre de bouillon de volaille, deux pommes de terre pour faire la liaison, justement. Alors, un poireau, un oignon. Et puis, je vais vous proposer, normalement, dans cette soupe, il y a du lard. On met des petits lardons et on mixe le tout.
Ben oui.
Mais là, je vais vous proposer de l'intégrer autrement. Vous allez faire à côté une petite chantilly au lard, une chantilly qui aura le goût du lard.
Pas mal,
plutôt que de le mettre dans les petits pois. Donc vous faites votre soupe de petits pois en cuisant les petits pois, les légumes coupés en petits morceaux avec le bouillon de volaille, etc. Vous mixez bien. Et puis à côté, vous allez prendre 25 centilitres de crème liquide. Vous allez la chauffer, pas à ébullition, mais vous la chauffez bien. Vous prenez des lardons fumés, vous les laissez dedans et vous les laissez infuser pendant une vingtaine de minutes. Et vous allez voir que vos lardons, ils vont donner à votre crème qui contient du gras le bon goût du fumé et du lard fumé. Vous pouvez même mettre un petit coup de mixeur. Ensuite, vous passez le tout pour avoir quelque chose d'assez liquide et vous le montez comme une chantilly. Et donc, vous avez cette chantilly qui est complètement parfumée aux arômes de lard. Et ensuite, votre soupe, ben, vous la servez froide ou chaude. Une belle quenelle de cette chantilly au lard et puis quelques feuilles de menthe, par exemple, pour donner encore une petite dynamique supplémentaire, surtout si vous le servez froid, un peu de fraîcheur. Et vous avez une version contemporaine de ce fameux potage Saint-Germain.
Et voilà.
Ça donne envie.
Ça donne très envie, surtout à Stéphane, en version froide, oui. Visiblement. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Et pour terminer, bah, j'espère que vous n'allez pas être dans le potage, hein, parce qu'on va jouer avec l'histoire. C'est la lutte finale.
Il y en a qui ont des petits pois dans la tête. Hein.
Oui, c'est vrai.
Oh. Europe 1, historiquement vôtre.
On va voir si c'est votre cas, Olivier.
Faites le malin.
Alors, à la fin du 19e siècle, on utilise le verbe conjouir. Quelle est sa signification? Est-ce que c'est jouir avec quelqu'un? Ça veut dire être d'accord ou se réjouir du bonheur de quelqu'un?
C'est joli, en tout cas.
Ouais. Je conjouis. Moi, je me réjouirais bien du bonheur de. Je verrais bien cette explication-là.
Ouais. C'est une bonne réponse. On se réjouit de quelqu'un, que quelque chose d'heureux lui soit arrivé. Et puis le XXe siècle est arrivé, on a arrêté de se réjouir du bonheur des autres. Et donc le mot est tombé, on a perdu l'usage de conjouir. David, si je vous dis que vous êtes un Ardélian, c'est que nous sommes déjà à la fin du XVIe siècle.
Mmh. Bon.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes mêlé de tout de façon agaçante ou que votre cœur est de pierre?
Un Ardélian.
Ardélian.
A-R-D-E-L-I-O-N. Que je me suis mêlé de toute façon agaçante,
oui.
Ou que j'ai un cœur de pierre. Que j'ai un cœur de pierre. Oh non.
Ouais, vous n'avez pas remonté, hein, là. C'est...
Ouais, non.
C'est, ça vient du latin Ardélio. Un homme empressé qui se mêle de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas.
D'accord.
Non, je ne veux pas accabler David.
Parce qu'il y avait hard dedans, c'est pour ça.
Je ne sais pas.
Dur.
Mathieu.
Oui.
Si vous mettez dans votre lit une Trauberitz.
Une quoi?
Une Trauberitz.
Non, mais moi, dans mon lit, avec ma femme. Hein.
Déjà,
je n'ai rien d'autre dans mon lit. Hein.
Mais c'est quoi? C'est une femme troubadour ou c'est une femme vendeuse de fruits rouges?
Une femme troubadour, vous l'avez dit sans aucune conviction. Et puis. Et l'autre, c'est une femme?
Une vendeuse de fruits rouges.
Oh, ça vous dites avec encore moins de conviction. Ouais. Alors, c'est une femme troubadour.
Oui. Oh, l'aide massive du visage. Elle a été.
Vous avez un service à demander?
Non, alors je vais vous dire. C'est vrai que là, vendeuse de fruits rouges, c'est pas crédible.
En plus, c'est très saisonnier comme métier.
Oui, c'est vrai.
Je ne doute pas que
ce soit crédible. Oui, c'est vrai. Je trouve ça un peu injuste pour David qui, lui, avait.
Ardélian.
Ardélian.
Oui, alors peut-être on pourrait repêcher David.
On devrait. Je repose la question à David.
Comment ça?
Une autre?
Alors. Une autre question à David?
Alors, David, c'est votre tour. Si je vous dis que vous êtes un Ardélian.
Non, mais vous ne croyez pas que vous allez faire le montage
donc,
comme
si
ça.
Donc, si je suis un Ardélian, je pense connaître
déjà,
ce mot, mais je suis.
Déjà, nous sommes à la fin du XVIe siècle.
Ah oui.
Mais ça veut dire quoi?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que vous êtes un homme qui se mêle de toute façon agaçante.
Oui.
Ou que votre cœur est de pierre.
J'ai envie de dire que mon cœur est de pierre, mais je suis pas sûr de moi.
Non. Alors,
je pense que c'est plutôt la première réponse.
Un homme empressé qui se mêle de tout, surtout de ce qu'il ne regarde pas.
Il y a un côté latin.
On écoute la réponse.
Il y a un côté latin.
Mais oui, bravo. Ça vient du latin, Delio. Oh là là. Alors, bravo, bravo à tous les trois.
Bravo. Donc, à vous surtout.
La question qui
bravo
débarque
à vous, parce que pour réussir à être encore plus arnaqueur que moi sur le premier quiz de l'émission, je trouve que vous avez fait fort.
Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
Bien sûr. Alors,
la question qui les partage, c'est, je vous rappelle, la réponse la plus proche du résultat qui remporte la lutte finale. L'été dernier a été mis aux enchères un bout de gâteau du mariage de Charles et Diana. Oui, plus de 40 ans après le mariage. On ne vous demandait pas de le manger non plus.
Oui, mais d'accord, mais c'est quand même dégoûtant.
La part a été vendue 2620 euros. Mais cette part de gâteau pesait combien?
Je dis 370 grammes.
495 grammes.
800 grammes.
Ça poule, celui, il déconne pas.
Parce qu'il faut une
vraie bonne part de gâteau.
Je dis 800 grammes.
C'est exactement
800 grammes. Mais non, mais non.
C'est pas possible.
Ouais. Mais ça ne peut pas être 800 grammes pile en plus.
C'est 800 grammes.
Ah ouais, bah comme quoi.
C'est
là, quand il s'agit de cuisine,
j'ai l'œil. C'est vous qui l'avez acheté.
800 grammes, ça fait une grosse part du gâteau.
Est-ce que la pour plusieurs, on a dit.
Est-ce que la feuille sur laquelle c'est marqué chez Stéphane n'est pas transparente un petit peu, que pas regarder.
Ah non.
Ah non, il est remarquable.
Oui, c'est vrai que c'est à côté de vous.
Je ne le crois pas.
Il faut le dire à les auditeurs.
Je ne le crois pas.
Bien sûr.
Autant d'autres, j'ai des doutes.
C'est honteux. Donc c'est Olivier Pouls qui prend la tête du championnat européen du quiz, qui n'existe pas mais que je viens d'inventer.
Je vais gagner un gâteau au moins.
Non, vous ne regagnerez pas de gâteau et puis vous n'aurez pas une part de 800 grammes. Il faut faire attention, l'été arrive. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré à ces femmes qui étaient folles de fouilles. Le moment de vous révéler que, enfant, je rêvais d'être archéologue. J'ai envie de vous demander, et vous?
Ah, c'est fascinant.
Oui, moi j'adore aller sur les chantiers de fouilles.
La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve lundi. Stéphane, vous connaissez le programme?
Oui, ils se sont fait gifler.
Allons bon.
Comme vous dites, on réunit le pape Boniface VIII et la gifle restée dans l'histoire comme l'attentat d'un Annie. Puis Philippe d'Orléans dit le régent qui a reçu une gifle aussi, mais de sa maman, la princesse Palatine, qui voyait d'un mauvais œil qu'il épouse une fille bâtarde du roi Louis XIV.
Et moi, je vous raconte une gifle plus récente et une gifle qui a fait le tour du monde, celle qui a reçu Chris Rock à la dernière cérémonie des Oscars, un événement qui a empêché David Castello-Lopez de dormir pendant plusieurs jours.
Oui, il nous en a parlé. Hein.
Alors d'ici là, bon week-end, les amis.
À lundi, Mathieu, bon week-end à tous.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.